Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP Radio Libre en Périgord pour ce nouveau direct depuis nos studios ce soir avec Stéphane dans Famille Justice Enfance. Famille Justice Enfance, votre émission sur l'analyse sociologique de la famille occidentale contemporaine. Mon Dieu, que de grands mots! Aujourd'hui, nous allons parler défense, protection de l'enfance, notamment et surtout dans les violences intrafamiliales à caractère sexuel. Disons-le, nous recevons pour ceci Katia Debrinon. Katia, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Ainsi que Julie-Christine Duboc, psychologue et aussi une des partenaires de Katia. Alors Katia, vous la connaissez forcément si vous nous suivez. On a dû l'évoquer plusieurs fois ici dans l'émission. Et elle anime une émission YouTube, une web télévision en fait, une fois par mois, avec deux heures et demie, avec Maître Vanessa Frasson et d'autres, et des invités qui passent pour aborder ces problèmes que notre société a beaucoup de mal à gérer et qui sont totalement insupportables. Katia, est-ce que je vous ai bien présenté? Dites-moi, d'ailleurs, racontez-moi, comment avez-vous commencé cette activité? Qui êtes-vous? Qui est Katia Debrinon?
Katia Debrinon, c'est d'abord et avant tout une journaliste, puisque c'est mon métier de toujours, et en vous racontant comment j'en suis arrivée là, vous allez comprendre. Moi, j'étais une petite fille hyper protégée jusqu'à l'âge de 9 ans. Quand je dis hyper protégée, c'est parce que j'étais élevée par mes grands-parents paternels, donc d'une protection et d'un amour total. En fait, j'étais une fille unique, quoi. J'étais une petite fille unique, heureuse, toujours avoir envie de plein de choses, beaucoup d'amis, enfin, j'étais heureuse. Et il y a eu un drame dans ma famille, puisque mon grand-père paternel a été atteint d'un cancer. Et à partir de ce moment-là, j'ai bien malheureusement pour moi, mes parents m'ont récupérée. Ils auraient mieux fait pas, j'étais trop bien avant, mais ils m'ont récupérée. Et là, j'ai fait la connaissance d'un monstre. Ce monstre, c'était le père de ma mère, donc mon grand-père maternel. Et ce monstre-là m'a embarqué dans tout ce qui pouvait être pervers, c'est-à-dire l'inceste, bien évidemment. Et puis, il s'est pas contenté de ça. Il a trouvé que c'était génial de me prostituer à ses amis alors que je n'avais même pas 9 ans. Donc, de 9 ans à presque 12 ans, j'ai eu droit de la prostitution infantile. Quand vous connaissez la prostitution infantile, il faut bien vous dire que votre vie ne sera jamais plus la même. D'ailleurs, la mienne n'a plus du tout été la même, puisque j'ai pu parler, j'ai informé mon père de ce qui m'arrivait. Mon père m'a fait voir par un médecin qui a bien évidemment confirmé mes dires. Mais ma mère a été dans un déni total. Elle n'a pas voulu entendre parler de ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû me construire toute seule. C'est-à-dire, elle ne voulait pas que je fasse études, et bien je faisais mes études en douce grâce à des professeurs extraordinaires que j'ai eu sur mon chemin. Ma mère voulait que je sois secrétaire. Moi, secrétaire, c'était même pas en rêve. Moi, je voulais avant tout être, je voulais être reporter. Je voulais être grand reporter à la base. Puis finalement, j'ai pas été grand reporter. J'ai été simplement rédactrice en chef de plusieurs revues, dont deux grosses revues techniques, puisque c'était d'électronique. Voilà, j'interviewais des personnalités, j'interviewais des présidents de la République. Enfin, moi, ma vie, c'était fantastique. Je l'ai aimée, mais je souffrais quand même en tant que victime, parce que ça, il faut se le mettre dans la tête. On n'est pas bien. Moi, j'étais vraiment pas bien jusqu'à l'âge de 31 ans. Jusqu'à l'âge de 31 ans, en fait, je souffrais, mais je souffrais parce que je ne me considérais pas. Et Julie vous en parlera, la victime ne se considère pas puisqu'on lui a tout pris. Pourquoi elle se considérerait? Donc, écoutez, après tout, si on me violait, c'était pas grave, puisque de toute manière, on m'avait déjà fait tout ça quand j'avais 9 ans. Donc, ça m'était indifférent. Jusqu'au moment où j'ai rencontré mon mari, celui qui est devenu mon mari. Et là, cet homme-là m'a fait comprendre que c'était pas ça la vie. Que la vie, c'était dans le respect, c'était dans la considération, c'était dans l'évolution, c'était à travers la famille, les enfants. Mon mari avait déjà 2 enfants en bas âge lorsque nous nous sommes rencontrés et c'était un des premiers pères célibataires à élever ses enfants. Donc, moi, quand je suis rentrée dans sa vie, j'avais un enfant que j'avais eu d'un viol. Mais cet enfant-là, je l'adorais, bien évidemment. Et on s'est retrouvés tout de suite avec 3 enfants. On en a eu un quatrième après ensemble. Mais cette vie-là, comment vous expliquer ça? C'est une vie de travail. Je travaillais tout le temps, je courais tout le temps après l'information. Jusqu'au moment où je me suis dit, il serait peut-être quand même temps que j'envisage une retraite. Oui, alors ça, oublions tout de suite. Moi, en retraite, c'est pas possible. Donc, je me suis ennuyée immédiatement. Ce n'était pas possible. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ben, depuis le temps que je disais que j'allais écrire mes livres, eh ben, je vais écrire mes livres. Alors, j'ai écrit deux livres. Le premier a tout de suite fait mouche, puisque là, je parlais vraiment du viol, de l'inceste, etc. Donc, j'étais invitée sur pas mal de plateaux, télé, etc., par des confrères. Et oui, puis après, je me suis encore ennuyée. Alors, donc, j'ai écrit le deuxième livre parce qu'on me l'a demandé. Mais à la fin du deuxième livre, je me suis dit, je peux pas en rester là. Et là, j'ai créé l'association SOS Viol Enfance. Quand j'ai créé l'association, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec l'association? Puis évidemment, la réponse, elle est venue tout de suite. Je vais créer mon émission. Et voilà comment est née cette émission, coup de poing sur les i. Coup de poing sur les i, où vous verrez, Julie a participé avec moi pendant pas mal de mois. Elle a été la psychologue attitrée de l'émission. Et là, ce qui est génial dans cette émission, c'est qu'on invite des personnes, on invite des victimes, on invite des spécialistes, par contre, qui vont nous aider à gérer les problèmes des victimes. Ce que je trouve fantastique, c'est que ce n'est plus moi qui suis en cause à ce moment-là, c'est les personnes qui viennent. Et mon plaisir à moi, c'est de les voir repartir avec un sourire. Et je peux vous assurer maintenant que ça arrive souvent, Julie, elle peut en témoigner. On termine au restaurant, on n'a pas honte de le dire. Tout ça à nos frais, parce que nous n'avons aucune subvention, on paye tout nous-mêmes. Mais par contre, on rencontre des personnalités fantastiques et avec qui on tisse des liens. Moi, j'ai énormément d'amis maintenant que j'ai reçus dans mon émission, qui sont devenus des amis proches. Et Julie, elle a apporté quelque chose d'extraordinaire dans cette émission que je voulais absolument. C'est que Julie, elle a amené le côté mal-être de la personne médicale. De quoi souffrent les victimes, pourquoi elles en souffrent, comment c'est arrivé. Et Julie vous expliquera qu'on réduit son temps de vie lorsqu'on a été victime. Et moi, je voulais parler de ça, mais je n'étais pas habilitée. Donc, j'ai pris Julie immédiatement en lui disant, voilà, c'est toi que je veux parce que toi, tu vas apporter ça à l'émission. Tu vas aider aux personnes qui ne savent pas à comprendre la souffrance des victimes. Et c'est une personne extraordinaire. Allez, je vous confie un petit secret, c'est Maroukine. J'ai toujours appelé comme ça. Et on est très liés dans la vie privée avec Julie, on se téléphone. C'est pas parce qu'elle n'est plus maintenant dans l'émission, parce que malheureusement, Julie habite beaucoup trop loin. Donc, ça faisait problème. Donc, elle m'a dit un jour tristement qu'elle pouvait plus, mais ça nous empêche pas, Julie et moi, d'être. Parce qu'on m'a posé la question, est-ce que vous êtes fâchés? Julie et moi, fâchés? Mais jamais. Ah non, jamais, jamais on se fâchera. Et elle va vous expliquer tout à l'heure ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle fait. Elle a des projets, moi, qui me fascinent. Julie, c'est un électron libre. Mais c'est elle qui va vous dire ça, pas moi.
Alors, je vous comprends très bien, Katia, parce que mettre en lumière, rencontrer des gens et faire des rencontres, c'est quelque chose que j'ai le bonheur de faire depuis 6 ans, même si le sujet est difficile. Donc, je partage complètement ce que vous venez de dire. C'est peut-être la récompense que nous avons dans notre travail, hein, donc je l'entends parfaitement. Par contre, j'entends aussi qu'il a quand même fallu que vous alliez vous dévoiler, vous mettre en avant, et forcément, vous vous êtes exposé. Y compris, vous avez eu quelques embruns qui vous sont revenus, je crois, au niveau familial. Ça n'a pas été une démarche facile de se livrer comme ça.
Non, ça n'a pas été facile. Mais vous savez, quand on arrive à un moment de sa vie, on se pose la question du virage que l'on va prendre. Moi, le virage, il était tout trouvé. Je ne pouvais plus me taire. Pourquoi je ne pouvais plus me taire? Parce que je devais aider d'autres victimes à avancer. Et quand on a ça dans sa tête et que ça commence à grimper dans sa tête, il faut faire quelque chose. Je vous dis, j'ai commencé par écrire. Mais bien sûr, c'est pas difficile pour moi d'écrire. Je suis journaliste. J'ai rien inventé. Hein.
Non, mais c'est une très bonne thérapie aussi. Et c'est vraiment le bon moyen de guérir aussi, hein, de mettre des mots, de sortir et de raconter. C'est aussi bon pour les autres que pour soi, en fait, hein, écrire.
Absolument. Alors, par contre, là, je vais vous dire quelque chose parce que ça, c'est quelque chose qui vient à travers ces émissions que je fais. Une victime qui écrit est une victime qui veut être reconnue. Être connue, ça ne veut pas dire devenir célèbre. Et j'ai le malheur de recevoir beaucoup de personnes qui croient que du jour au lendemain, parce qu'elles sont passées sur une antenne, ça y est, elles sont célèbres. Elles sont devenues des vedettes. Et il y en a même qui me disent, maintenant, je veux qu'on tourne mon film. Oui, alors ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'en fait, c'est pas fait pour ça. Écrire son livre, c'est se libérer. Comme vous disiez très justement tout à l'heure, c'est une thérapie. Mais cette thérapie, elle doit rester personnelle. Elle ne doit pas venir là, vous voyez, pour vous dire « Ah ben maintenant, je vais être Springora ». Parce que non, elles ne seront pas Springora.
Non, mais ce n'est pas le but du jeu. De toute façon, ces gens ne durent pas. On sait tous que la lumière attire.
Absolument. Alors
moi, je suis passé au niveau pro par MCM et divers endroits et autres. Donc, on sait que la lumière attire un certain nombre de types de profils et autres. Mais franchement, là, ce qu'on fait pour l'enfance, j'ai dit à Jovanovic il y a 2 semaines... on s'en moque de qui c'est qui en parle. Ce qui est important, c'est que certaines choses s'arrêtent.
Voilà,
c'est ça qui est important.
Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose que je voudrais bien que les victimes qui écrivent se mettent dans la tête.
Oui,
ce n'est pas pour devenir célèbre.
Ah non, on ne fait pas une starification parce qu'on a été victime.
Mais
ça,
ce
n'est pas possible, c'est impossible. Julie-Christine Duboc, donc vous êtes la psychologue attitrée de la web télévision, de l'émission de Katia. Vous m'expliquiez que vous êtes passée par les sciences dures. Allez, je vais y gagner du temps et je vais dévoiler tout ça. Vous êtes passé par la recherche, par les mathématiques, puis par la sophrologie, puis par un master de psychologie et un DU de criminologie. Ça fait un sacré parcours. C'est magnifique
et
tout ça.
Et là, c'est un résumé.
Allez-y, dites-nous, qui est Julie-Christine Duboc?
Alors, Julie-Christine, une petite fille qui vit déjà dans une famille un peu dysfonctionnelle, viol conjugal, 6e de la fratrie, des difficultés déjà, une maman avec une pathologie sans doute liée à l'inceste, hein, même si elle l'a jamais avoué, mais elle a fait baisser les yeux quand je... Je dirais qu'en fait, petite fille, je me suis raccrochée aux mathématiques. J'étais douée pour ça, et je me suis raccrochée aux mathématiques parce que c'était quelque chose qui ne mentait pas. Autant dans les rapports humains, il y a des choses qui se disent, des sourires qui sont forcés. Ma mère souriait alors qu'elle était d'une tristesse profonde. Et je pense qu'en fait, les mathématiques m'ont permis de me raccrocher à du vrai.
Il y a la pureté dans les mathématiques.
Exactement. Chose de... Et en fait, à faire ça et à 23 ans, finir mon doctorat et être au CNRS en mathématiques. Et à 24 ans, démissionner un an plus tard parce qu'en fait, après avoir fini mon doctorat, j'ai été rattrapée par mes traumatismes de l'enfance.
Vous avez rencontré Philippe Guillemant au CNRS ou petite digression comme ça?
Non,
d'accord.
Non, je vous dis, oui. j'ai mon directeur de thèse qui disait d'ailleurs que j'avais été l'étoile filante des mathématiques.
D'accord.
Voilà,
c'est joliment dit. Ouais.
C'est joliment dit, voilà, je le reprends. Mais j'ai... Quand mes traumatismes m'ont rattrapé, traumatisme d'inceste à 6 ans par un oncle et ensuite de 11 à 13 ans par un frère et le frère aîné. Je préfère dire le frère aîné parce que l'autre frère a été aussi victime, donc voilà, le frère aîné. Ça m'a rattrapé, ça m'a complètement... je ne pouvais plus réfléchir, je ne pouvais plus lire 2 phrases d'affilée. Moi, c'est d'abord l'aspect cognitif qui a été complètement envahi par ces émotions.
Et c'est revenu comme ça à 24-25 ans? Vous avez pu faire votre doctorat et c'est revenu après?
C'est revenu par une mauvaise expérience sexuelle avec quelqu'un.
Il y a eu un déclencheur en fait, amnésie traumatique plus déclencheur qui a fait que beaucoup de choses sont remontées. D'accord.
J'irais même plusieurs déclencheurs d'un seul coup. Pouf. Puis aussi le fait du vide. J'avais fini ma thèse, je n'avais plus mon os à ronger et quelque part, il y avait de la place pour autre chose. Quoi. Et donc après, mon os à ronger, ça a été me reconstruire après tout ça. Et j'y suis allée dans cette reconstruction avec la même rigueur que j'avais pour ma thèse, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu comprendre, vraiment comprendre. Je suis jamais allée dans la culpabilité de dire, mais pourquoi j'arrive pas à m'en sortir, mais pourquoi, comme beaucoup de personnes qui se culpabilisent d'être, je dirais, dépressive et avoir des troubles mentaux. Et à chaque fois, je disais non, il y a une cause. Et donc, je cherchais la cause et je la travaillais. Et c'est vrai que dans ce parcours-là, j'ai écrit mon livre de témoignages qui aide bien sûr à la reconstruction parce que c'est un livre qui permet de dire quand on témoigne en son propre nom, on dénonce vraiment l'inceste jusqu'au bout dans le sens où on dit bien que l'inceste est un crime et qu'il ne fait pas partie de mon intimité, il fait partie de la vie publique. C'est vraiment un crime.
C'est le plus grand tabou de l'humanité, qui est multiculturel d'ailleurs. Hein, où que nous allions, c'est un tabou énorme. Hein.
Oui, mais c'est le problème, c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, les personnes ont encore honte d'en parler, et c'est souvent parce qu'ils ont introjecté la honte de l'agresseur en elles. Et je dis, il faut vraiment s'en débarrasser, parce que c'est un crime, et tout crime est public, et voilà. Et, et ce n'est pas, ça ne définit pas votre intimité. Ça définit l'intimité de l'agresseur, une intimité d'agresseur pervers sexuel. Et il est important de remettre les points sur les i. Donc ça, c'était, je dirais, la finalisation de toute ma mon parcours de thérapie, qui m'a pris quand même des décennies, parce que écrire est guérir sur un plan mental, mais il y a aussi tout le travail émotionnel, le nombre de boîtes de Kleenex, le nombre de cris à sortir de soi pour pouvoir guérir, et le nombre de massages à recevoir pour enfin retrouver une certaine dignité et une certaine cohésion avec son corps, parce que l'inceste dissocie de son corps. Tout ça, ça prend un temps fou, et il faut le dire. Et c'est tout ce travail m'a permis aussi de comprendre tout cet entrelacement au niveau neurologique et neurobiologique de l'impact des traumatismes, pas que de l'inceste, mais de l'impact de tous les traumatismes sur l'enfant. Et aujourd'hui,
c'est pas anodin. Moi, j'ai eu une ex qui, je me suis rendu compte lorsqu'on a commencé à se rapprocher, être très intime, qu'à certains moments, elle se recroquevillait, puis elle avait 12 ans dans l'attitude. C'est pas anodin du tout. Hein. D'ailleurs, quand j'en ai parlé ici avec des spécialistes, ça crée des traumas à des stades qui empêchent le développement de certaines composantes. C'est-à-dire qu'en fait, l'évolution intérieure de l'enfant se retrouve bloquée au moment où il y a eu cette agression. Donc, c'est pas du tout anodin. Et en fait, plus on est jeune, et plus les traumas mettent du temps à être résolus quand on est grand. Il y a ça aussi qu'il faut mettre en parallèle. Donc, quand on se réveille à 25, 26 ans, ça prend plusieurs années, oui, bien vous croire.
Ça prend des années, et en plus, on a moins de temps pour le faire que la majorité des personnes, puisque tous ces traumatismes ont un impact sur la santé physique et mentale. Mais physique aussi, on l'oublie, des personnes, c'est-à-dire il y a plus
les traumatismes de manière générale. Les traumatismes de manière générale abîment l'ADN, les mitochondries, donc en fait l'énergie générale du corps, la réplication des cellules, donc ça accélère le vieillissement, et on rentre dans des spirales. On dit toujours que l'argent attire l'argent, le succès attire le succès. Malheureusement, la loose attire la loose, les échecs aussi. Et ça affaiblit la personne.
Il y a un effet de production de cortisol, etc.
Oui, tout à fait. J'ai une psychiatre qui soigne les pédophiles. On a fait une interview il y a quelques semaines, docteur Bataille, qui m'a expliqué aussi que le viol des enfants était pratiqué par certaines organisations parce que ça les affaiblissait et ça les rendait plus contrôlables plus tard.
Bien sûr. C'est un outil de pouvoir, un outil de domination. Il s'agit toujours de ça, d'un outil de domination sur les plus faibles, les plus fragiles, et par ceux qui veulent.
Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que moi, je suis revenu en France il y a 10 ans, et là, j'ai un petit peu halluciné. J'ai eu l'impression d'entrer dans un pays qui était en guerre, parce que dans ma famille, moi, j'avais jamais vu ce genre de truc, et pourtant, j'ai des frères et sœurs composés des deux côtés et autres. Et je me suis rendu compte, en passant par la porte des divorces conflictuels, des séparations avec enfants, donc des gens qui s'étripaient, qui s'envoyaient des accusations multiples de tous les côtés et autres, que nous avions un véritable problème. Et le problème, il est double. Le problème, c'est qu'il y a des enfants qui sont victimes de choses graves et sévères, et il ne se passe absolument rien. Mais là, je vous parle de certificat médical, de rééducation, de kiné, enfin, de trucs vraiment, là, il pas possible. Il n'a pas fait ça tout seul. C'est pas possible. C'est impossible. Et dans le deuxième temps, je vois aussi un grand nombre de gens qui ne voient plus leurs enfants, qui sont désenfantés, soit parce qu'ils tentent de les protéger, soit parce qu'il y a eu de la calomnie, qu'un voisin a dit quelque chose, qu'il y a une suspicion, qu'ils se sont fâchés avec une institutrice ou une infirmière, et là, ils perdent leur gosse. Alors, d'un côté, ça ne va pas du tout, parce qu'il y a des gamins qui sont vraiment endommagés et il n'y a rien. Et d'autre côté, il y en a d'autres qui perdent leur gosse, c'est-à-dire qu'ils y sont pour rien non plus. Et je trouve ça scandaleux, dans les deux sens. Voilà.
C'est scandaleux, et c'est en fait la politique familialiste française qu'on retrouve dans tous les tribunaux, où en fait, on ne veut pas retirer l'autorité parentale aux agresseurs. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que ça, c'est
pas forcément, parce que moi, j'en ai connu pas mal. Moi, j'en ai connu pas mal qui n'avaient rien fait du tout, puis ils ont perdu leur gosse parce qu'ils ne les ont pas vus durant des années, le temps qu'on regarde. Hein. Donc, vous voyez, alors que dans le même temps, il y en a d'autres qui vraiment subissent des trucs et puis ils vont encore chez le parent qui les agresse. Quoi. J'ai plusieurs dossiers comme ça.
Et je pense que là, il faut aller chercher la psychologie des différents juges. Parce qu'en fait, le juge va appliquer ce qu'il ressent au plus profond de lui, si lui, il est encore loyal à une autorité, mais c'est quand même son père, mais c'est quand même sa mère, quelque part, il n'y aura pas de justice faite à un certain niveau. Et il va y avoir, par exemple, des enfants qui vont retourner auprès du parent agresseur et des parents protecteurs qui vont être déchus de la garde. Et ça se retrouve. Et par contre, il y a d'autres Il y a d'autres juges, il y a d'autres cours où c'est le contraire, qui ont vécu par exemple de la maltraitance dans l'enfance et qui ont tendance à être aller trop vite vers le retrait de l'autorité au lieu d'explorer les choses plus en amont. Donc je pense qu'on trouve une dimension humaine de chaque individu dans ce processus judiciaire.
Alors, mais on a quand même un gros problème, et un gros problème, parce que moi je travaille beaucoup dans mes émissions maintenant sur les dérives de l'ASE, hein, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance.
Ah, qui est un acteur qui s'est vraiment implémenté dans ce domaine-là, oui, tout à fait.
Non, mais c'est une horreur, c'est carrément dingue ça, parce que ils ne connaissent pas les familles, ils ne connaissent absolument rien, ils débarquent un jour comme ça, bien évidemment sans prévenir, le parent qui est pas bien, parce que ça peut arriver, et je le dis et je le répète, un parent a le droit de faillir. C'est pas une chose qui n'existe pas. Mais quand un parent faillit, il y a souvent de la famille à côté. Et non, on ignore la famille. Les parents, les grands-parents, on les ignore. On va prendre l'enfant ou les enfants, hein, s'il y en a plusieurs, et on va carrément les coller dans des foyers ou dans des familles d'accueil, dans ce que vous voulez. Et je vais rien vous apprendre en vous disant que dans les foyers de l'ASE, il y a la prostitution qui y règne. Et cette prostitution-là va achever de détruire l'enfant et la famille.
Il y a beaucoup d'enfants, on les envoie à l'ASE, c'est pas forcément leur faire un cadeau. Mais moi, j'ai plusieurs théories sur le pourquoi du comment, mais bon, on en parlera éventuellement un jour si je vais parler chez vous. Mais là, aujourd'hui, c'est vous qui venez parler chez moi, Katia de Brinon. Vous avez écrit deux ouvrages, vous avez réalisé plusieurs dizaines d'émissions. À votre avis, pourquoi ça marche pas? D'où vient l'origine de ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est votre voix que je voudrais entendre ce soir.
Ben, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faudrait revoir le système qui dysfonctionne. C'est vrai, mais on est nombreux, vous savez, à le dire. Il faudrait mettre déjà à plat tout cela et arrêter avec l'ASE et les pouvoirs infinis que l'on donne. Quand je dis pouvoir, il y a beaucoup d'argent qui circule. Cet argent-là va carrément dans les dirigeants des provinces, etc. Bon, là, on comprend plus rien parce qu'on se dit, mais pourquoi on donne de l'argent? Pourquoi un enfant rapporte autant alors qu'il aurait mieux valu le soigner, cet enfant? Par exemple, je pense à Julie qui accueille des enfants, qui accueille des victimes. Ben moi, je préférais que des enfants soient confiés à des gens comme Julie qui arriveraient à sortir de là et ne le pourriraient pas, parce qu'on est obligé de mettre les vrais mots là-dedans. Ils le pourrissent.
Est-ce que vous pourrez rappeler aux gens pourquoi on est passé comme ça aussi rapidement de l'inceste à l'ASE?
On n'est pas passé rapidement.
Non, dans la discussion, dans notre discussion, là, ça s'est fait en quelques secondes. On est vraiment passé de l'un à l'autre très, très rapidement.
Parce que vous savez, en général, les enfants qui sont confiés à l'ASE sont des enfants qui ont été incestés. Et Julie disait justement tout à l'heure, le malheur, c'est que souvent, on remet l'enfant qui a été incesté à son violeur. Et par contre, celui qui voulait le protéger, ben lui, il a le droit qu'à des visites médiatisées, et encore, s'il y a droit.
Vous voyez, c'est une partie qui n'est pas acceptable, c'est une partie, mais il y en a d'autres de parties. Tous les enfants qui vont à l'ASE n'ont pas été incestés, et tous les parents désenfantés n'ont pas agressé leurs enfants.
Exactement.
Non, bien sûr. Mais il y en a beaucoup.
Mais en fait, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait, et ça fonctionne très bien puisque j'en ai été témoin, il faudrait non seulement faire la thérapie avec les enfants qui ont subi des maltraitances, mais aussi avec leurs parents. Parce que souvent, ce sont des parents qui dysfonctionnent, mais qui voudraient aimer mieux leurs enfants. Et je parle pas du pervers incestueux qui va être très difficile à changer. Mais par exemple, le parent maltraitant qui donne des claques, la maman qui dysfonctionne parce que elle-même porte trop lourd sur son enfance et elle n'a jamais travaillé dessus. Si on aidait ces parents-là, on changerait tellement la donne et on n'aurait pas besoin de mettre tous ces enfants et de leur faire vivre un autre traumatisme de séparation, d'abandon et quelquefois encore de maltraitance derrière, si on s'occupait aussi des parents et pas simplement des enfants.
Ouais. On pouvait évoquer à ce moment-là les mamans solo. Alors les mamans solo, c'est terrible parce que ces mamans-là, bon, elles veulent leur enfant. Elles ont le malheur, bien évidemment, de se faire procréer, pas en France, hein, c'est évident. Elles reviennent, elles sont dénoncées. À partir de ce moment-là, on leur prend leur enfant, j'ai envie de vous dire, au sein, parce que c'est arrivé. Oui. Moi, j'ai reçu une jeune femme.
Vous parlez de PMA, c'est ça? Vous parlez de procréation pour autrui, des femmes qui vont se faire inséminer à l'étranger, qui reviennent.
Exactement. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de mamans qui choisissent cette envie d'élever seule un enfant.
Moi, je mets ça en rapport avec l'affaiblissement du respect de l'autorité parentale, de manière générale, en fait, si vous voulez. Mm-hmm. Je vois que dès qu'une affaire judiciaire cancer arrive, par exemple, s'il y a une enquête, on va sous-estimer l'importance de l'allaitement sur un bébé, par exemple, et on va séparer, alors que si l'enfant était né en prison, il serait resté avec sa mère, par exemple, on ne pense pas que la relation d'attachement a une importance, et donc l'État prend le pas sur la primauté biologique, en fait, très, très rapidement, très facilement.
C'est exactement ça. Et alors, il y a des parmi nos dirigeants, il y en a qui pensent, mais pourquoi n'adoptons pas davantage en France? Parce que l'adoption en France, il n'y en a pas. Alors que vous avez des enfants qui pourraient être adoptés, parce que tous les parents ne peuvent pas récupérer leurs enfants et n'ont pas forcément de famille, hein, soyons logiques. Mais l'adoption en France, je peux vous dire, c'est le pari de l'impossible. On a des gros problèmes, vraiment, des très, très gros problèmes.
Oui, de réglementation, de régulation.
Mais oui, en ce moment, on auditionne beaucoup de parents, beaucoup de victimes d'inceste, beaucoup de victimes tout simplement intrafamiliales, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi comme ça. Et puis, vous vous rendez compte d'un seul coup que... qu'est-ce qu'on a fait de la CIVISE? La CIVISE et toutes ces recommandations, préconisations, on en a fait quoi? Rien du tout. Ils ont disparu. Le juge Durand, on l'a renvoyé. Et aujourd'hui, on recommence à faire des commissions. Mais enfin, on avait tout sous la main. On avait vraiment des dossiers complets.
Et en plus,
complets.
Très instrumentalisé, la CIVISE. Hein. Il y avait des choses très bien, mais elle était quand même très instruite. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés les conclusions de la CIVISE pour aller dans telle ou telle direction idéologique. Et au final, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu beaucoup de discussions, mais il n'y a pas eu de
il n'y a rien.
Voilà.
Mais de toute façon, en fait, à la base, l'enfant, quel qu'il soit, depuis le fœtus, il n'a pas de... il n'existe pas dans la mentalité de beaucoup d'adultes. Il n'existe pas tant que... il peut pas parler, tant qu'il peut pas dire. Je donne un exemple. L'accouchement, encore aujourd'hui, est fait de manière à arranger les accoucheurs et non pas ni la mère ni l'enfant, puisqu'en fait, c'est pas la position naturelle pour pouvoir accoucher. Et en fait, on reste encore avec, c'est pas grave si on traumatise la mère et l'enfant, d'ailleurs, on ne pense pas les traumatiser, tant que le médecin accoucheur, lui, est confortablement installé. Et c'est significatif de tout le reste, en fait. On ne voit pas, par exemple, que en mettant un enfant à la ZE plutôt que d'accompagner la mère défaillante, on est en train de traumatiser et sur-victimiser l'enfant, etc. etc. Voilà.
Alors, ce soir, c'était donc avec nous Katia Debrinon et Julie-Christine Duboc, psychologue, qu'on retrouve les derniers jeudis du mois pour l'émission de Web TV. Cette discussion continuera éventuellement sur YouTube, vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube, Stéphane Lambert, Famille Justice Enfance, autrement la suite des programmes sur RLP, et à la semaine prochaine, bonsoir à tous.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.